Vous avez déjà monté de Shakespeare au cours des années Macbeth, Richard II, Hamlet, la mégère apprivoisée qu'on vient de voir, ainsi que Othello. Qu'est-ce qui vous a déterminé à monter les tragédies romaines? Est-ce Shakespeare? Est-ce la situation politique en Europe en ce moment? Est-ce que c'est un autre détail? Quel a été the sparkle, l'étincelle de départ? Monsieur Vanhoeve va répondre en anglais et je vais faire du mieux que je peux de la traduction simultanée. Monsieur Vanhoeve comprend très bien le français, mais préfère s'exprimer en anglais parce que c'est une langue qu'il maîtrise davantage. So I'll give you the time to think about your answer.
Well, first of all, I have a long history with Shakespeare, as you say, and I, as a director, I think you shouldn't call yourself a director if you're not interested in Shakespeare. As it's the same with the Greeks, if you're not interested in staging the Greeks, why being a director in your life?
J'ai une longue relation avec Shakespeare et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on se dirait metteur en scène si on n'est pas intéressé à Shakespeare ou aux auteurs grecs.
And for me, Shakespeare is like an ocean. And you never can conquer the ocean. You can travel the ocean in one direction. You can try another direction, but there is always endless possibilities.
Alors, Shakespeare, c'est comme l'océan. On ne peut pas le conquérir, on peut prendre toutes sortes de directions, les possibilités sont infinies chez Shakespeare.
And then for this production, well, actually, I was doing a huge opera project from 2006 until 2008. Ça s'appelle L'Anneau des Nibelungen, je crois, oui. De Wagner.
OK, alors c'est né du fait qu'entre 2006 et 2008, je montais le Ring de Wagner, l'Anneau du Nibelung, la fameuse tétralogie, parenthèse que Robert Lepage est en ce moment en train de faire pour le Metropolitan à New York.
And I together with this project, I had a huge urge, which is perhaps strange, because sometimes you think, well, when you do a big project, you need a smaller project, the side of it, but I felt a real urge to have a big theater project aside from the Ring.
Alors, habituellement, quand on fait un énorme projet, j'ai eu envie de faire un autre projet. En même temps, quand on fait un gros projet, on a le goût de faire un petit projet. Mais là, non, j'avais envie de faire un énorme projet à côté de cet énorme, un énorme projet théâtral à côté de cet énorme projet qui est le Ring de Wagner.
And now I stop talking about the Ring, but the Ring for me, because a lot of the rings that are done today are in a political world, are situated in a political world.
Beaucoup de rings tels qu'ils sont mis en scène en ce moment sont en font une interprétation politique et situent le ring dans un monde politique.
But I situated that in a business world, in a more an economical world.
Alors moi, je l'ai davantage situé dans un monde, dans le monde des affaires, dans un monde économique.
So I need, I for me, it was very organic, very natural to talk about the political world with these Shakespeare plays.
Alors pour moi, ça devenait très organique de parler en même temps du monde politique, qui est le monde dans les pièces de Shakespeare.
And then I started with Anthony and Cleopatra because that's the play that I wanted to direct because it's huge enough on itself actually.
Et tout ça a commencé par Antoine et Cléopâtre parce que c'est la pièce que je voulais mettre en scène et c'est une pièce qui est par elle seule gigantesque.
And impossible to direct because nobody ever does it anymore because it's really hard. It's a lot of scenes, a lot of characters, a very complicated structure of scenes. When we read it first with the actors, nobody understood what it was about.
Et personne la montre parce qu'elle est trop longue, énormément de personnages, énormément de scènes. Et puis la première fois qu'on l'a lu avec les acteurs, personne ne comprenait, mais de quoi ça parle?
Then I started to research Anthony and Cleopatra, read about it, and of course I knew the connections with Julius Caesar, which are very obvious because Anthony is a really important part in Julius Caesar.
Alors j'ai commencé à faire de la recherche sur la pièce, et puis bien sûr que je me suis intéressé à l'autre tragédie, Jules César, parce que Marc-Antoine est un personnage important dans Jules César.
But researching it, I discovered more and more connections in footnotes to Coriolanus, which was a play that I think I saw one production of it in my whole life in Europe.
Et puis ensuite, en lisant sur Jules César, Antoine et Cléopâtre, il y avait de plus en plus de notes qui faisaient référence à Coriolan, et qui est une pièce de toute ma vie, je n'en ai vu qu'une seule production en Europe.
So I read it, I reread it, because I read it only when I was studying theater, so, and that's a long time ago, as you told before.
Alors je l'ai lu, en fait je l'ai relu, parce que je l'avais déjà lu quand j'avais étudié en théâtre, mais ça faisait déjà longtemps.
So I read it and I was totally astonished by it. I really fell in love with this play, a play that I cannot believe why it's not produced more, because I never encountered the role of a mother, of a woman, in such a complex way, in a relationship with a son which is so complicated. And I think, well, this is a great play to direct. And then I saw, of course, in one weekend, a new house built on the basis of these three plays, Coriolanus, Julius Caesar and Antony and Cleopatra.
Alors, quand j'ai relu Coriolan, j'étais absolument bouleversé. J'ai trouvé que c'était une pièce extraordinaire, en particulier la relation entre la mère et le fils est d'une telle complexité, et je ne comprenais pas pourquoi cette pièce-là n'était pas montée plus souvent. Et un week-end, j'ai vraiment vu comme une maison se construire, Coriolan, Jules César, Antoine et Cléopâtre.
And then I took some root decisions towards Shakespeare.
Alors là, j'ai pris des décisions de base par rapport à Shakespeare.
I said to my dramaturg, and we ended with three dramaturgs in the end, because we needed them to do this, but we started with one, and I said, you have to cut out all the war scenes from this place and all the scenes with the citizens.
OK. Alors, j'ai demandé à mon dramaturge, finalement, on y a passé trois dramaturgues, de couper dans le texte, dans les trois pièces, toutes les scènes de guerre et toutes les scènes qui mettaient en scène des citoyens.
And then I looked at it and I discovered the play that you can see now here, and that's a play that only talks, because if you do Antony and Cleopatra on itself, it has a lot different things to tell than we do here. You know, I think there's a whole story which we took out, the Pompeius story, for instance, and so I can tell about the other plays also that we took things out, but it was all because we wanted to really focus on politics, politicians, and political mechanisms.
Alors, le résultat, c'est ce que vous avez vu. Évidemment que ça nous a obligés de laisser tomber certaines choses, par exemple, toute l'intrigue secondaire autour de Pompée dans Antoine et Cléopâtre, mais ça laissait essentiellement trois choses. La politique, les politiciens et la mécanique politique.
I don't know if I have to go on, but... and then for me, in these three plays, you can see... The next decision was that I thought, well, let's not present it as if Coriolanus is old politics and that in Antony and Cleopatra it's new politics. No, I think that the way that people behave, that leaders behave in these different plays, that we can recognize them today in every play. It's not that Coriolanus is from an old time, an old medieval time or something, and that Antony and Cleopatra is from our modern times. Well, it's a little bit like that, but I think also the way that Coriolanus behaves, also this mother woman behind him, you know, pushing him towards decisions, I think that's still happening today.
Alors, je voulais pas qu'on voit Coriolan comme une façon ancienne de faire de politique, et par exemple Antoine et Cléopâtre comme la façon nouvelle. Non, pour moi, c'était des choses qui réellement étaient de la même nature. Et cette idée d'une mère qui pousse son fils, c'est quelque chose que l'on retrouve encore aujourd'hui. Well, she's a kind of a Rose Kennedy kind of woman.
Yeah, and yeah, she is. What's great about it and complicated about it is that she lives in a time that a woman cannot have a political function, that she cannot function openly. But I think, well, when you look at all the characters in all different, she is the most bright political mind of the three plays.
Elle habite une société où est-ce que les femmes ne peuvent pas faire de la politique activement, mais si on regarde les trois pièces, c'est elle qui a l'instinct politique, l'esprit politique le plus brillant des trois pièces. Elle est stratégique.
C'était tard ce soir. Yes, soir. Strategically, she is on a very high level. She can take hard decisions. You know, she can be ruthless and she can be very tender at the same time. Because that's so nice about this last scene, talking to her son in this wonderful monologue at the end. You know, and when she is cutting him out of her life. You know, she's also. There's also a lot of tenderness and a huge emotional world behind it. So in her, in this central character, we see what we then see spread over all the other characters, that how to bring together your private life and public life.
Alors, le personnage... bon Dieu, est-ce que j'ai déjà résumé, mais essentiellement, c'est que le personnage a une... très grande variété, c'est-à-dire qu'elle peut être, elle est stratégiquement très très forte, elle sait comment et quand prendre les décisions, elle peut être à la fois d'une grande tendresse, elle peut être à la fois totalement sans pitié, et à la fin, dans ce grand monologue avec son fils, à la fois elle est capable de le couper complètement de sa vie, mais en même temps, c'est quelque chose qui n'exclut pas la tendresse. Et ce thème qui va se développer dans les trois pièces de la tension entre la vie privée et la vie publique, le pouvoir politique, elle l'incarne de façon totale.
And then, well, in general terms, you could say that the first that Coriolanus talks about the fragility of democracy, how difficult it is to have a real, true democratic system. That means that, and that perhaps important to say, that the basis of democracy is a consensus, is that you listen to somebody else and that you're able and flexible to adapt your own opinion in order to have not a consensus, not a mediocre solution, but a better solution. That's what I think a consensus is or should be. And that's this whole difficult, fragile democratic system and the difficulties of it, that's what Coriolanus talks about, I think, this play.
Le Coriolan a comme sujet la fragilité de la démocratie. En fait, c'est la difficulté d'établir un système avec lequel on arrivera à un consensus. Parce que pour Ivo Vanov, la démocratie est... un travail de consensus, non pas d'arriver à un consensus de la moyenne, de la médiocrité, mais un consensus de la meilleure solution. Et c'est la difficulté d'arriver à trouver un système qui produit cela, et la fragilité de ce système qui est à la base de Coriolan.
And then Julius Caesar, I'm making a synthesis of it, but in Julius Caesar, I think we are in the middle of democracy, and then there's people that don't agree with somebody for the right reasons they think, and they are totally sure of that it's for the right reasons. And then you see that the most bright, balanced people, a person like Brutus, who is really an academic almost, a thinker, that he goes so far in his thinking that the only solution to solve the problem of Julius Caesar behaving a little bit like a tyrant, he thinks, is to kill him. To commit a political murder. That's what the whole speech, and which Roland, the actor, yesterday did. I never saw it as well as yesterday. He did really great. Because he truly believes that to murder Julius Caesar is good for the country. And that, of course, is a tragic mistake. That you think that you could do something bad in order to create something good. And I think this is what this problem, which I think is still around in our world, that to do something bad, to go to war, that out of a war can come something better. That's what this play talks about for me.
Avec Jules César, on se retrouve dans l'idée que dans le milieu de la démocratie est déjà établie. Et c'est qu'est-ce qu'on fait avec les désaccords, et surtout lorsque les désaccords sont fondés sur la raison. Le personnage de Brutus est au centre. Brutus est un être brillant, c'est un penseur. On peut même le voir comme carrément un intellectuel. Et pour lui, César est devenu un tyran. Il est persuadé que non seulement il est un tyran, mais que le meurtre politique est la seule façon de régler la solution. Or, cette pensée, toute généreuse soit-elle, est une erreur tragique. Et c'est la question du mal, et qui peut aller jusqu'à la guerre, pour créer le bien qui est posé dans Jules César. But it's also, c'est aussi quelque chose, c'est un terrain qui est familier si vous avez monté Richard II, c'est-à-dire de ce côté-là, le personnage de Bolingbroke a quelque chose de Brutus.
Oui, ça c'est vrai.
C'est l'idée, a-t-on le droit de tuer un roi injuste? Mais dans Jules César, ça va encore plus loin, parce que, et surtout dans votre mise en scène, souvent César est présenté comme un vieux fou avide de pouvoir, et pas du tout dans votre mise en scène. Parlez un peu de comment vous avez conduit...
That's a very good question, because that's what I said to my actors when we started the rehearsals. I said to them, I'm not interested in judgments. And not saying, well, this is a good character and this is an evil one or something like that. So I said, no, we're going to show them as human beings, because I think behind every politician, Obama is of course a president with a lot of power, but it's also a human being. And I think that influences his decisions, and the decisions influences his private life, I think. And I tried... even the greatest film in this play, you know, in these plays, I try to show them as complex characters, not as one-dimensional characters. And on the other hand, and perhaps that's a shocking statement, I don't know, I think that Saddam Hussein, for instance, that he was convinced of that he did it something good for his country. I think he was an idealist in his own way. He did terrible things. And we can judge him for that, you know. But I think he was really... I think every politician really thinks that he does the right thing. So I think these days it's a very normal thing to behave cynical towards politics and politicians. I didn't want to do that. I wanted to take them serious. And then see where they make mistakes and be hard on that and show that in a truthful, realistic way, I hope.
C'est une. Il disait que en montant ces tragédies, il n'était pas intéressé de porter un jugement sur les personnages, dire un tel est bon, un tel est mauvais. Je voulais les montrer dans leur complexité d'être humain. Un personnage qui, aujourd'hui, quelqu'un qui est un président, est aussi un être privé dont les décisions d'État sont influencées par sa vie privée, mais aussi sa vie d'homme d'État influence sa vie privée. Et en fait, je disais à mes comédiens, il ne faut pas les juger. Et j'irais même jusqu'à dire que les politiciens, essentiellement, sont des idéalistes. Quelqu'un comme Saddam Hussein était persuadé qu'il faisait le bien pour son pays. Et que l'idée que les politiciens sont cyniques, c'est un cliché. Les politiciens, au contraire, vont faire des erreurs tragiques, mais sont convaincus d'agir pour le bien. Je veux faire ce qu'on appelle en français l'avocat du diable, parce que dans votre pièce, on voit très bien des personnages, que ce soit le vieux Lépide dans Jules César, que ce soit Mininius dans Coriolan, des gens qui aiment le pouvoir et qui, au-delà d'un idéalisme, s'intéressent surtout à garder une forme de pouvoir.
Yeah, but that's what happens, you know. Once you sit on the throne, or you're in the, because characters like Menenius, Lepidus that you're referring to, they are of course not in power, but they create kings.
Yes. They are the famous kingmakers.
Kingmakers they are, you know, and they talk. Yeah, but Menenius, for instance, in this wonderful first scene of in Coriolanus, when he talks to these representatives of the people who are sitting in the audience at that moment, you know, he really tries to discuss with them, you know, that they make a mistake and that we can talk about things and to clear things, and not behaving in we against them, you know. That's what he tries to do. He's a mediator. You could say that with a modern word.
Oui. Ce qui est intéressant, c'est que des personnages justement comme Menenius, ce sont des gens qui créent les leaders, tout ça. Mais ce qui est pour moi intéressant aussi, c'est que Menenius est une figure de médiateur. Pour moi, la scène importante, c'est au début, c'est quand il y a on vient de changer la constitution pour que le peuple ait des représentants et que c'est la scène où ces représentants sont assis dans la salle. Menenius essaie de trouver une autre logique que celle que nous contre vous, mais au contraire de créer un nouveau discours politique. Si on en revient aux pièces, Antoine et Cléopâtre est un cas extrême de l'interpénétration entre la vie privée et la vie publique.
Yeah, and also a clash of cultures.
Et aussi un clash de culture.
Because I think Antony and Cleopatra perhaps is the most, in these days, could be the most modern, because it plays in Rome and in Egypt. It plays in two different cultures, two different political cultures, because one is run by an emperor, and the other one is run by a queen. An emperor, you get voted to be an emperor, or people have to support you in order to get it. But a queen, you are, because that's by birth. That's also beautiful. In the end of the play, it tends to be forgotten. And yesterday, when I listened again to it, it's because she talks when she knows she has to die, she wants to preserve the rights for her son. That's what she talks all the time about in the last scenes. When she's dying, when she knows that she has to die, and when she knows that she has lost, she says, no, my son, he should remain, have a little power still. And that's of course, this dynastical thinking. You know, it's totally different from political thinking, you could say. And that's it's a cultural clash, but it's also a clash of totally different political thinking, and I try to bring that out, that also the way that people deal with each other. In Rome, they have meetings with papers and meetings, you know, for, and then they have a decision has to be made within 2 hours, the way that I am actually. But and then in Egypt, they don't have meetings, you know, they have the whole day, you know, to go and to sit around and have champagne, and then we will make a decision, and they will, it's a totally different attitude towards how to make decisions. And I think this play is, you could also say this play is the global world, because we travel back and forth from Rome to Egypt, from Egypt to Rome within a second. It's unbelievable that Shakespeare in the 17th century could create this, I think, because it's so modern, it's so today.
Pour moi, cette pièce, c'est la plus moderne de la trilogie, parce qu'elle met en scène deux cultures, Rome et l'Égypte, mais aussi deux systèmes politiques qui sont différents. L'empereur à Rome, c'est quelqu'un qui doit avoir du soutien. On vote finalement d'une certaine façon pour l'empereur, alors que Cléopâtre, elle est reine et elle est née reine. Et d'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à la fin de la pièce, sa grande préoccupation, c'est que, une fois qu'elle a décidé et qu'elle a vu qu'il n'y avait d'autre issue pour elle que la mort, se préoccuper du fait de quel type de pouvoir, qu'est-ce que son fils, donc l'héritier du trône, qu'est-ce qu'il va pouvoir garder comme pouvoir, le fils qu'elle a eu avec Jules César, Césarion. Donc elle a cette pensée carrément dynastique. Comment faire en sorte que la dynastie ne meure pas? C'est aussi deux cultures de pensée politique complètement différentes. À Rome, on a des réunions. Les gens ont des papiers. Et les gens doivent avoir pris, on dit, bon, on a des papiers, la réunion est à telle heure, on doit avoir pris notre décision avant telle heure. Et d'ailleurs, M. Ivanov disait, je fonctionne comme ça. Alors que en Égypte, on a tout le temps, on a toute la journée, on boit du champagne, et puis à un moment donné, ben, la décision va bien finir.
La culture française.
champagne, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on a toute la journée pour prendre la décision? Et ce qui est étonnant, c'est que Shakespeare ait pu envisager cette idée d'un monde global et que dans sa pièce, on passe instantanément de Rome à Alexandrie et que ce passage continuel entre non seulement deux zones géographiques, mais deux cultures, deux systèmes politiques. Je poserai la question, on l'a vu aussi pour non seulement La Mégère apprivoisée, mais aussi pour Cris et chuchotements. Revenons quand même spécifiquement à Shakespeare. Finalement, vous faites comme dans le temps de Shakespeare, c'est-à-dire qu'à l'époque de Shakespeare, les acteurs portaient des costumes de leur temps et vos acteurs porte des costumes de notre temps, ce qui, à certains moments, permet des raccourcis assez électrisants, comme cette scène où Antoine met sa cuirasse, mais ce qu'il met, en fait, c'est son habit acheté chez Brooke Brothers à Londres, son power suit. Quelle est, pour vous, En fait, pourquoi ce choix de monter Shakespeare? Mais aussi, je vois beaucoup de répertoires. Votre voix humaine n'est pas située à la fin des années 20 à Paris. C'est contemporain pour vous.
For me, that's very. I think there is this misunderstanding of in theater. I don't know in Canada because it's my first visit here. Actually, I don't know how it's here, but. In Europe, there is still discussion going on in the theater that theater should be that you should be totally loyal to the author. I find that a very hard thing because what is that? Nobody knows who Shakespeare was. Nobody knows what he thought. We only have his texts. So I think that you always play an analysis of a text. A text never is an objective truth. That's impossible. So for me, it's very necessary also in order to have theater, to make it work for new audiences, that you show it with the instruments of today. I think Shakespeare would do the same when he would live now. Because Shakespeare also, because in the Roman tragedy, is a good example, because he used stories that were centuries ago before him. He used them because he wanted to say something about his own time. In costumes of his own time, in a language of his own time, using characters, using stories from a long time ago. And I think when I'm directing now Shakespeare after another three, four centuries, then we should do the same, to make it work for the 21st century.
Je ne sais pas si le débat a lieu encore ici au Canada, parce que c'est ma première visite, mais en Europe, il y a encore ce débat qui est l'idée de la loyauté à l'auteur. Or, il est impossible de savoir ce que Shakespeare voulait, ce que Shakespeare pensait. Tout ce qui nous reste de lui, ce sont ses textes. Alors, quand on joue l'analyse, on ne joue pas la pensée de l'auteur, on joue l'analyse que l'on fait de ses textes. Et pour moi, c'est important d'utiliser les instruments d'aujourd'hui. D'une façon ou d'une autre, c'est ce que Shakespeare utilisait lui-même. Il utilisait de vieilles histoires, mais qu'il racontait dans le langage de son propre temps, avec les costumes aussi de son propre temps, pour parler de son propre temps. Et moi-même, je me retrouve à monter ces histoires qui ont maintenant 4 siècles, les pièces de Shakespeare, mais je veux qu'elles fonctionnent pour le 21e siècle.
Quand on a joué au Festival d'Avignon avec ce spectacle-là, quelqu'un, et j'ai, parce que tu m'as demandé cette question, je ne savais pas, mais dans mon livre, j'ai écrit quelque chose qui était dans un magazine culturel Télérama en France. Et le journaliste a écrit sur les tragédies romaines, enfin un théâtre pour aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui et les ingrédients d'aujourd'hui. And that's what I want to make.
Et voilà ce que je voulais faire. J'ai déjà posé énormément de questions. J'aimerais ouvrir, j'en ai d'autres, mais j'aimerais ouvrir les questions à la salle. Je vous demanderais de les poser haut et fort. Et puis, voilà. Alors, vous avez été la première à appuyer sur le bouton. Combien de temps? Pour répéter, mais aussi, je dirais, tout le processus.
Non, répéter, c'était... Moi, je suis connu pour être très vite. Mais ça, c'est aussi parce que j'ai un ensemble d'acteurs. Tu as vu, dans tous les clips, ce sont tout le temps les mêmes acteurs qui sont des meilleurs acteurs dans l'Europe, je crois. Et on a répété ça pendant 11 semaines seulement. C'est incroyable, mais c'est vrai.
Mais vous répétez temps plein. Est-ce que vous répétez combien d'heures par jour?
Non, non. Et seulement, on commence à 11 heures du matin jusqu'à 4 heures ou 5 heures. 11 semaines. Et c'est vrai. Hein? mais c'est aussi parce que je prépare très profondément. Alors... Le processus était, j'ai décidé de faire, il y a deux années avant, j'ai décidé de faire ça et je commence avec mes dramaturges et aussi avec le scénographe qui est très important et aussi, il faut le dire, la personne qui a fait le vidéo, c'était Taljarden de Brooklyn et c'est Jan Verzwijfeld, moi et Taljarden qui ont concipié tout ça. Et ça prend presque un an. Pour faire ça.
Donc, un an avant les 11 semaines de répétition, oui.
Il y a aussi un autre aspect qu'on n'a pas parlé, ben, que vous n'avez pas parlé encore de la pièce qui m'a intriguée et qui m'a fascinée, le fait que vous intégriez le public sur la scène. Est-ce que, j'ai deux petites questions, là. Est-ce que quand vous faisiez vos pratiques, est-ce que, exemple, pendant la générale, vous aviez un public pour que les acteurs puissent se familiariser avec le fait qu'il va y avoir des personnes assises ou est-ce qu'eux doivent s'asseoir ou des choses comme ça?
Le premier moment quand j'ai introduit ce spectacle, cette production à mes acteurs, c'était le silence total. Parce que j'ai dit, on va faire. Il savait qu'on va faire les trois tragédies, hein? Mais alors j'ai dit, on fait ça sans interruption. Ça va durer, je pense, entre 5 et 6 heures. Et le public va être aussi sur la scène. Et ils n'ont pas cru que that was going to work. Et on a répété tous les scènes. Et alors, 3 jours avant la première à Amsterdam, dans le Holland Festival, le public était là. Et ça a fonctionné immédiatement. Mais c'était aussi horrible parce qu'un acteur est ici, et il joue avec toute sa force, et quelqu'un est ici avec un sandwich, hein, et il ne voit pas l'acteur, mais il va aux écrans. Mais ça, c'est aussi, je crois, comme on est maintenant.
Hein? J'aimerais que vous parliez juste un peu dans cette ligne-là de comment en êtes-vous venu à créer ce genre de centre de congrès, studio, hôtel international, bref, cette sorte de lieu politique d'aujourd'hui.
But that develops over all these conversations between Tal, Jan, Verswijfeld, and me. And then I came up at this. And then I said, yes, we have a lot of ideas, but we need a central. My question is always, where am I? You know, where am I? Où est-ce qu'on est? Pour moi, c'est très important de savoir comme metteur en scène où je suis. Et alors, moi, j'ai dit, peut-être on doit considérer l'espace comme un centre de conférence où on discute la politique avec, quand on est à la fin et quand on reste après les applaudissements. Il y a 100 questions. Et ce sont les questions qui sont dans toutes les scènes qu'on a vues. Et c'est comme une conférence de presse. Une conférence de...
Oui, un congrès. Oui.
J'ai dit déjà qu'on a coupé tous les scènes de guerre, mais on n'a pas coupé parce qu'ils sont là. Ce sont des pièces de musique, mais aussi on donne l'explication technique, historique, exacte de la guerre sur les
running text, sur la bande défilante, oui.
Oui. Oui, j'aimerais savoir.
Ah oui,
j'aimerais savoir, parce que jouer Shakespeare en français, c'est tout le temps un enjeu, dans quelle traduction on va le jouer. Est-ce que vous avez commandé une traduction nouvelle pour votre.
Oui, c'était nécessaire parce qu'autrement, on a 3 différents styles ou quelque chose. Et aussi, c'était pour moi très. Parce qu'en irlandais, c'est comme en français, je crois, on peut faire ça très rhétoriquement, ou très sec, ou très ça, et moi, je voulais un style qui était bien pour le spectacle qu'on allait faire. C'est une traduction nouvelle, oui.
Donc, c'est une langue contemporaine, comme les costumes?
Oui, mais c'est aussi très Shakespeare. Mais pas exagéré, parce que dans les traditions, on exagère trop de temps, qu'on fait ça trop beau, too beautiful, or too rhetorical, or too this, or too that. Cette traduction, c'est très, very near to the original, I think.
C'est très, très près.
We played this in London. On a joué ce spectacle à Londres, dans la salle où la Royal Shakespeare Company joue toujours, le Barbican. I was really afraid that night. It is like going into the cage of the lion, and you can be killed, you can be dead afterwards. But even there, people talked about this text issue, and they really loved the way that we dealt with it. And we had a professor there, of course, because I was really so afraid about this. But we had a professor who looked at the translation, also because we translated the Dutch translation into English again. Mm-hmm. And it was a huge success. People really went out of their mind, even at the place where Shakespeare is created all the time.
Ici en avant. Donc, it's about the use of the multimedia. Is it something that you do also in your other plays? What is your story? Okay. Your love story is with screens and microphones and video.
Yeah, but microphones and video, ce sont des moyens d'aujourd'hui. Alors, il faut les utiliser, mais il faut les utiliser qu'on a besoin de ça pour le message. Oui. Et pour moi, parce que quand on va jouer Théorème de Pasolini à New York cet été, et il n'y a pas de vidéo là-dedans. Et là, il y a des live musique. J'aime la musique, bien sûr, j'aime la vidéo, j'aime tout ça, mais je veux l'utiliser seulement quand la nécessité est totale. Et dans ce spectacle ici, quand on joue ça, sans vidéo, on ne voit rien.
Oui.
Camille, elle a déjà posé la question pour... tu sais, on a inclus le public sur la scène, mais c'est quoi la raison derrière ça? Pourquoi on a... C'est détruire la barrière entre le spectateur et l'acteur, mais y a-t-il vraiment une raison profonde derrière ça?
Good question. I wanted to create... also, in the time of Shakespeare, and we tend to forget it, going to the theater was a social event. It was an evening out, or a day out. And they brought their picnics, and they talked a lot. It was a lot of social talk going on. Therefore, there is so much repetition of what they have said already. You know, for us, it's boring sometimes because we think that we know this already. Because in Shakespeare, people were also talking and having social talks together. So there was it was not silent during a performance. So that same very loose atmosphere I wanted to create, you know. And of course the other thing was that I wanted to, I cut all the citizen scenes, but you are the citizens and they are sitting on stage witnessing and thinking about it, and you see them sometimes in video, you know, and sometimes they sit just a side of an actor, and then you see somebody just listening or not listening or being indifferent or smiling or whatever. And I wanted this chorus of people, and so I used the public as a chorus.
Oui. Alors c'est ça, ça pour juste le fragment en anglais, c'est-à-dire que nous avons coupé les scènes avec les citoyens, mais le public sur scène joue le rôle des citoyens, et quelquefois la caméra les montre. Des fois qu'ils écoutent, des fois qu'ils écoutent pas, et puis quelquefois qu'ils sont carrément indifférents, quelquefois qu'ils sourient. Mais aussi pour ajouter une chose sur ce que M. Ivanov vient de dire de l'époque de Shakespeare, quand on fait des travaux à Londres, qu'on construit une maison, tout ça, on sait tout de suite quand on commence à creuser, quand on tombe sur le lieu d'un théâtre. Il y a un pied d'épais d'écale de noix. Not shells.
That's how they know that there was a teacher there.
Oui.
Oui, je veux savoir.
Yeah.
Il y a combien de caméras exactement sur scène?
How many cameras on stage?
It's actually it seems very complicated, but it is not true. It's 9 cameras, which are really cheap stuff, because there's this little camera. Therefore, the quality of the image is not really like a HD. Eh? It's not like high definition, not at all. Eh? It's 9 cameras, movable, who are into the theater, and we can just move them around. Eh? And then we have 1 live camera, so it's 10 cameras. But 9 cheap ones and 1 good.
Alors, c'est ça. 9 bon marché, une bonne. Ça a l'air plus compliqué que c'est la réalité.
Vous montez Shakespeare pour le montrer aujourd'hui, pour nous montrer notre société d'aujourd'hui. Quand vous choisissez de faire Théorème, Pasolini, puis Bergman, vous n'avez pas ce décalage de temps. Pourquoi vous avez choisi ces œuvres? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que les films?
Pourquoi je fais des films sur théâtre? Bergman, Cri et chuchotement, pour moi, c'est le film que j'admire le plus dans ma vie, peut-être. Alors, ce n'était pas mon idée de faire ça. Mon dramaturge, à un certain moment, a dit, oh, j'ai le droit de faire ça sur scène. Et alors, j'ai pensé, je ne peux pas faire ça parce que j'admire ce film. Mais en même temps, ça parle de quelque chose qui était à ce moment-là très important pour moi, parce que ça parle de mourir. Et comme dans la fin de Antoine et de Cléopâtre, ça...
Oui. Mais aussi, c'était l'idée que vous montez non seulement du répertoire, mais aussi du théâtre contemporain, des auteurs contemporains. Quel est pour vous le rapport que vous avez aux écritures contemporaines par rapport aux écritures anciennes? Okay. What is the relationship?
Wait, I've understood it. I need a second.
Okay.
Okay. Je ne fais pas beaucoup de des auteurs contemporains. J'ai fait Duras, oui. J'aime Duras. J'ai fait Agatha et Indiasson. Mais je n'ai pas fait beaucoup. J'ai fait Jean Cassavetes sur scène, aussi un auteur de film. Mais pour moi, c'est tout le même. La choix pour un texte, c'est la plus difficile pour moi de faire. Parce que pour moi, et j'utilise le mot, j'ai utilisé beaucoup, je sais, mais ça doit être une nécessité totale. Parce que je décide 2 ans avant que je fais 2 ans après, il faut être totalement convaincu qu'il y a une nécessité totale pour faire ça. Aussi parce que je pense, dans ce spectacle, c'est énorme, bien sûr, parce qu'il y a 50 personnes qui travaillent pendant 6 heures. Hein. Alors, le metteur en scène doit être convaincu de 200% qu'il faut faire ça. Et c'est le même avec Pasolini ou Shakespeare ou ça ou ça. Je ne suis pas un metteur en scène qu'on peut sur commande. Hein. Et je ne suis pas un metteur en scène qui veut faire toutes les choses de Aeschylus depuis jusqu'à Tennessee Williams ou quoi. Pour moi, il faut être il faut avoir une nécessité totale pour faire quelque chose sur le théâtre et pour faire de l'art en tout.
Oui. How do you articulate the blocking with the video images? What is the relationship?
But video gives me the opportunity, ça donne moi l'opportunité de faire des choses qu'on ne peut pas faire sur scène. Moi, j'aime de jouer dans des salles comme on est ici. Aussi à Amsterdam, je travaille dans un théâtre traditionnel du 19e siècle. Alors, moi j'aime ça, mais j'aime aussi explorer les salles comme si c'était, et je ne sais pas en français, si c'était une location dans une fabrique ou quoi. Pour moi, le théâtre, on croit. We think a lot that in the 19th century theater you can only do put an actor on stage in front and then look at him, but there's a lot more possibilities, and video gives me the possibility to have actors play at the side, suddenly they pop up, so they are visible live, so there's a lot of new possibilities for a director to do a mise-en-scène.
How do you use those possibilities? Why?
It's very different. It develops of. Sometimes it's. For instance, we did Opening Night by John Cassavetes. It's a movie. And in that movie, it's a movie about theater. So there is rehearsals going on in that movie, and then you have the backstage scenes, and then you have the private scenes, mostly in hotel rooms. So what I did is, if you're the audience, I'm the theater, I had a small group of people, audience, on stage, sitting there, and all the theater scenes we played that way. So when you were looking, and we videoed them, so you could see them here like this. And all the private scenes we played towards you, so the people sitting on this little tribune, la tribune petite, they had to see also on the video to see what exactly happens. And then the backstage was really backstage over there. So there it was a structure of the scene, so it was structured that way. Here in Roman tragedies it's much more complicated and much more loose, you could say, and that was developed. Of course, we had this, very central is this moment of dying, these two glass walls. eh, where nobody can enter, where the public should stay away, and where there is this place that the characters know when you go there, it's your last minute, you know? And that became very important, like a central focus. But here it was like I'm very influenced by performance art, eh? from the early 70s and 80s, my youth, you could say. So I'm very influenced by that, and that gives me a lot, yeah. So I'm not a director like a rhetorical theater. I'm using the actors as performers and also the space as a performance space, you could say. I don't know if this is an answer.
Je vais tenter de résumer. Quand on a monté Opening Night de Cassavetes, qui est une pièce qui est un film. D'abord, un film qui porte sur le théâtre, il s'agissait de représenter la scène, la vie privée, les coulisses. Alors, nous avons mis le théâtre de côté. Alors, il y avait des gens dans des gradins sur scène qui regardaient l'action. Alors, grâce aux caméras, on pouvait... Mais le public voyait la chose de côté. Mais grâce aux caméras, on pouvait aussi les voir de face. Par contre, les gens qui étaient sur scène, sur les gradins, quand c'était des moments de vie privée, ils pouvaient y assister, mais en regardant sur écran. Quant aux scènes de coulisses, on les a vraiment mises en coulisses. Pour quelque chose comme pour les tragédies romaines, le travail a été beaucoup plus compliqué, mais il y avait une chose qui était centrale pour nous, c'était cet espace entre les deux panneaux de verre, qui était l'espace de mort. Et qu'une fois que vous êtes... D'ailleurs, le public n'a pas le droit d'y aller, mais parce que dans cet espace-là, quand vous êtes là, vous êtes mort. Et d'une façon ou d'une autre, je sens que j'ai été beaucoup influencé par le mouvement de la performance dans les années 70, 80, disant, ouais, ma jeunesse, pour penser à ces choses-là. But also, mais aussi, cette plateforme qui roule, ça vient du théâtre grec, où est-ce que on apportait justement à la vue les cadavres. Donc vous êtes parti de ça aussi, mais dans un contexte très contemporain, où est-ce que ça a l'air des photos de police?
But that's what I do. I have not a style, I think. It's not like Bob Wilson. When you see a Bob Wilson show, you know it's Bob Wilson, you know? I think I don't have a style. Perhaps I have an acting style, because I love organic acting, you know, not stylized acting, and very physical also, and psychologically, because also when I talk here, I talk with my whole body, and you talk in a totally different way, but also with your whole body. Yeah, but it's true. And the way that you sit here, we all behave as a total person, so, but I have not a style, so I use whatever influence I get, and it's true what you say. Also here, there is things of the Greek theater in this, because the Greek theater and the Roman tragedies, it's not so far away from each other, so we used these kind of things. But in this production, in a very eclectic way, and that was the thing. That was my worry at a certain moment and during the preparations, that we had so many different ideas. The dying, the text messages, the internet plays, and then to bring it together, to bring all these separate ideas together in one production that was connecting with the audience, and that you not think, oh well, this is well thought out, but that it really says something to you, to your heart or to your mind. That was the challenge.
Je n'ai pas de style. On peut dire que Robert Wilson a un style, mais il serait pas d'accord. par contre, il y a une chose. Pour ce qui est du jeu, j'aime un jeu organique, qui a une dimension psychologique et qui aussi engage l'ensemble du corps, parce que bon, quand on bouge, quand on vit, s'engage l'ensemble de notre corps. Aussi, je prends les choses un peu partout. Et en effet, il y a des éléments de théâtre grec dans les tragédies romaines, probablement par contagion, parce que les deux sont antiques. Mais mon grand souci était d'amener tout ça ensemble. Comment amener les écrans, le jeu, l'Internet, la musique, le public, toutes ces images-là. Comment amener tout ça pour que ça dise quelque chose de précis, à la fois au cœur et à l'esprit.
Oh, c'était toi? En fait, premièrement, bravo pour hier. Mais aussi par rapport à la mort, pourquoi, en fait, vous avez fait mourir vos... les personnages mouraient comme ça. Pourquoi pas avoir fait une mort plus traditionnelle, puis ça, avec la photo, puis l'espèce de plaque, un peu de module qui roulait?
Pourquoi avoir ainsi représenté la mort de façon standard avec l'épitaphe presque et cette photo?
It's a very classical image. It's like you know, this Grunewald, the dying Christ. It's inspired by that, and it's inspired by David Bowie. He made an album, Lodger, and that's also. But it was inspired by Grunewald. This one, you know, it's a very classical image, the dying image. You know?
Cette image de mort est une image très classique qui vient de la peinture de Matthias Grunewald, peintre de la Renaissance allemande, mais aussi que l'on retrouve chez David Bowie pour une de ses pochettes d'albums.
Mais pourquoi justement deux panneaux blancs? Non, j'aime pas, j'haïs les micros, excusez, je déteste les micros.
Oui, mais c'est pour l'enregistrement.
Pourquoi deux panneaux blancs?
Why two glass panels?
Well, that was this how to say that tomb. It was like a mortuary almost, you know, where you're a sterile world at the same moment. It's like a tomb.
Oui, c'est comme une tombe. C'est comme un monde stérile. It's like the Lenin mausoleum.
Yeah.
C'est comme le mausolée de Lénine. Oui, ici, oui, il y a quelqu'un.
Moi, je voulais savoir parce que j'ai remarquez que vous utilisez toujours les mêmes acteurs, puis je voudrais savoir pourquoi utiliser toujours.
Pourquoi toujours les? Why all the same actors? Because we don't have companies here.
Yeah, but that's a very good question also, because I also in Europe there is in Belgium and in Holland there is not a lot of ensembles. So il n'y a pas beaucoup de des ensembles d'acteurs. Moi je crois que c'est la seule. C'est la base pour faire du théâtre qui est exceptionnel. Parce que quand on connaît les acteurs et quand les acteurs connaissent le metteur en scène, ça provoque toujours quelque chose de nouveau. C'est comme avec Jan Verzwijfeld, le scénographe. Je travaille avec lui pendant 30 années et ce n'est pas comme un mariage qui est... Boring.
Non, c'est pas comme un mariage où est-ce que on finit par s'y ennuyer.
No, we provoke each other to make something even better than we did last time, you know. And that's what I try to do. But the actors, it's the same. I know the actors so well that I know, okay, this I know you can, but can you do this? And I always say to my actors, we play in the Olympic Games of arts. Not in provincial games, the Olympic Games. We go for the best. We can fail, and when you lose, you're terribly sad, but we have to go for it. So try to jump 5 centimeters higher, please. You know? And they do the same with me. Ivo, this we know from you. Try to jump a little bit further. So, and an ensemble creates this confidence. Because you know that you've made successes. You know that you've made failures, you know? But I think it's a ticket to success, but not success in a superficial way, but in a deeper way. And I think ensembles of actors are even, and I see the my artistic director from New York, where I work for a long time, coming in, and even there he knows when, because in New York you have to audition, and I hate auditions, because you have to see hundreds of people in order to, I always try to have the same people again that I worked with. So even in New York, in my own strategic way, I have created my own little family, you know. But I think that's important, to go back to people that you really love and that love you, because that creates the best work. That is the potentially creates the best work. I should be humble here.
Bon, faut comprendre aussi ce que c'est que l'idée d'ensemble, parce qu'on l'a pas ici, c'est-à-dire ce sont des compagnies permanentes où les acteurs sont habituellement salariés. Mais c'est l'idée que vous êtes dans un groupe où est-ce que vous connaissez parfaitement vos acteurs, vous avez confiance en eux.
qu'il y a eu des succès au sens profond du terme succès, mais aussi qu'il y a eu des échecs. Mais je dis toujours à mes acteurs, et c'est l'avantage de les connaître, on est, nous, de calibre olympique. On n'est pas de calibre provincial. Alors, écoute, je le sais que tu es capable de sauter 5 cm plus haut. Et ça, c'est des choses qui ne se font qu'avec des acteurs que l'on connaît. Je travaille aussi à New York. À New York, il faut auditionner les acteurs. Je déteste ça, mais j'ai fini par tranquillement me constituer une petite famille d'acteurs à New York avec lesquels, quand je vais travailler là, je travaille avec eux. Et c'est finalement un travail où est-ce que j'aime mes acteurs et aussi que cette relation d'amour et de connaissance est un levier puissant de la création.
Dans Tragédie romaine, on va aborder plusieurs thèmes, dont celui, mettons, du pouvoir. Mais c'est quoi les autres thèmes que vous sentez importants d'aborder comme en ce moment dans notre société? Est-ce que dans vos autres pièces ou les thèmes abordés?
Les autres thèmes,
non seulement dans les tragédies romaines, mais qui vous préoccupent en ce moment dans l'ensemble de votre pratique théâtrale.
Maintenant, je fais le Misanthrope à Berlin. Et le Misanthrope est une pièce tellement différente des tragédies romaines parce que ça ne parle pas du tout sur le pouvoir ou quelque chose de ça, ou sur la politique. Mais ça se parle sur le monde moderne qui est liquide. There's a wonderful sociologist of Poland, un sociologiste de Pologne qui a écrit des livres Liquid People, Liquid Society. Il parle de gens qui on peut communiquer maintenant avec tout le monde ici. Mais ça veut aussi dire que des relations pour longtemps sont ce n'est pas tellement facile aujourd'hui. Les mariages durent average 7 années dans le monde maintenant, 7 années seulement. Mais mes parents, c'était totalement normal qu'on a un job pour sa vie, qu'on a une femme pour mon père pour sa vie. Maintenant, ce n'est pas le cas. Et pour moi, le misanthrope parle de ce monde-là parce qu'Alceste, qui est le misanthrope, il hait les gens parce qu'ils sont comme ça. Et il déclare la guerre aux gens qui sont liquides, on peut dire. Et moi, je pense, on vit dans un monde liquide, il faut accepter ça, il faut penser, bien sûr, comment faire ça, et parce que il y a beaucoup de contacts sur Internet, comme Facebook, mais on peut. There was a friend of mine who suddenly was invited on Facebook to become a friend, and he became a friend, but then he didn't do anything, and he had only 20 friends, and then all people came in to try to save him because he needed friends, because you were like you're totally ridiculous when you have only 20 friends on Facebook. When I have in my life 20 friends, I would be really happy, you know.
On va prendre une dernière question. Bon.
Faites souvent des pièces qui ont déjà été créées à l'avance, mais pas été créées, mais déjà été écrites. Mais est-ce qu'un jour vous croyez que vous allez faire une pièce qui vient d'être écrite, comme mettre en scène?
You go to the core of my problem. No. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas créé beaucoup de nouveaux textes. Ce n'est pas. J'ai très peur. Je vais faire ça, mais pas vraiment. Parce que je vais faire ça l'année prochaine. L'année prochaine, on va faire dans le Holland Festival un spectacle basé sur les deux pièces de jeunesse de Tchekhov, Ivanov et Platonov. Et ça va être un nouveau texte C'est un écrivain exceptionnel de la Belgique, cet homme Lannoy. Il a fait une adaptation des drames de roi de Shakespeare il y a 10 ans pour Luc Perceval. Il va faire une adaptation et alors il va écrire des nouveaux scènes aussi, des rencontres entre Ivanov et Platonov et aussi des rencontres entre les femmes. Et ça, c'est comme un nouveau texte, mais avec un peu de sécurité là-dedans. Non, j'ai peur. J'ai dit que je veux faire du théâtre d'une nécessité totale. Et moi, j'ai toujours peur quand un écrivain écrit un texte et quand j'ai reçu ça, que ça ne va pas m'intéresser. Et c'est mon problème, peut-être.
Alors, donc, vraiment, la dernière question.
J'aimerais juste savoir, dans les extraits qu'on a vus, puis dans la pièce qu'on a vue hier, Tragédie romaine, il y a comme une montée dramatique, puis la mort est quand même omniprésente. Puis je veux savoir, en fait, pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans?
Why is death everywhere in your plays?
Because I'm afraid of it. Parce que j'ai peur de mourir, et j'ai peur... it's the same, I have an anxiety... also, I'm attracted to big cities, and I live partly in New York and partly in Amsterdam. But for instance, to see beggars on the street, I still have a real hard time dealing with that because there's a deep anxiety in me that I could be one of them very simply like this. So I try to get this out of my life. So I try to go on in the streets and not to see that. And with death, it's the same. It's of course in a lot of tragedies. It's an element of tragedy. But I deal with it in a way that I try to figure out how that is decaying, knowing that you will die, dying on itself. Well, ça parle de ça. Tout le spectacle parle de ça. J'ai besoin de. It's like a ghost that I have to deal with.
Alors, la mort est un fantôme auquel je dois toujours faire face. Ivo Vanov, merci énormément pour votre générosité.
Merci beaucoup. Merci.